Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, pour une nouvelle émission Ma commune est utile. Aujourd'hui, je suis avec Alain Castan. On ne sera que tous les deux pour cette émission.
Brigitte, notre mère de Saint-Barthélemy de Bellegarde, en période de vacances, est tenue de garder ses petits-enfants.
Et je crois que c'est quand même une bonne chose de temps en temps pour nous de pouvoir garder nos enfants. On est tellement pris par nos activités de mère. Effectivement, c'est important de pouvoir
tout à fait
profiter de nos enfants et petits-enfants.
Pour moi, ça sera la semaine prochaine.
Donc, on va commencer cette émission. On va aborder un sujet, souvent les gens nous en parlent et ne savent pas trop exactement ce que c'est, la ZAN.
Le ZAN.
Ou le ZAN.
Zone d'artificialisation nette.
Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux expliquer cette loi ou ce procédé ou ce processus
C'est issu de tout ce qui est urbanisation, bien sûr. Et pour préserver les surfaces agricoles, le gouvernement a trouvé le moyen, soi-disant efficace, mais ô combien terrible pour les communes rurales, c'est-à-dire de demander que les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, soient diminués de moitié au niveau des surfaces. Ça veut dire que les communes perdent minimum 50% des permis de construire qu'ils avaient, quoi. C'est-à-dire que si sur une commune vous aviez 20 hectares d'urbanisable, vous passez à 10 hectares. Et c'est un véritable problème. Le véritable problème, c'est comment on calcule cette réduction de 50%. On la calcule en fonction de ce qui a déjà été consommé. Et comme celles qui ont consommé le plus, ce sont les communes urbaines et particulièrement les communes urbaines. Donc étant donné qu'elles ont consommé beaucoup de terres, si par exemple elles ont consommé 100 hectares, elles sont obligées de le diviser par deux, il leur reste 50 hectares. Mais vous avez une commune rurale qui a consommé 3 maisons, parce que sur des communes de 100, 150 habitants, 300 habitants, ça se manifeste par 3 maisons, 4 maisons par an. Ça voudrait dire que s'ils ont un hectare et demi, ils se retrouvent avec la moitié. Donc c'est dramatique. Et c'est pour ça que l'Association des maires ruraux de France s'est battue. On a réussi à modifier le texte de loi. Et dans l'obligation maintenant, les communes rurales, obligatoirement, gardent un hectare de constructible. Mais un hectare, pour une commune qui est en plein développement, c'est très peu.
Donc dans ces ZAN, c'est compris l'habitation, mais aussi les artisans, les supérettes et tout ça.
Alors ça en fait partie, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a d'abord les zones prioritaires pour les grands projets, que sont la ligne NGV, par exemple, pour la Nouvelle-Aquitaine, les grandes entreprises, les grands projets. Ça en fait partie aussi sur la masse globale du ZAN. Et c'est vrai que quelque part, ça diminue encore plus la part qui va rester pour urbaniser, c'est-à-dire surtout pour faire construire des maisons. Parce que ce qui nous intéresse, nous, les communes rurales, ce sont surtout les habitations et les possibilités de faire construire, tout en sachant aussi que les logements sociaux sont en perte de vitesse, tout en sachant aussi que les gens ont de plus en plus de mal à trouver des locations. Et parce que c'est de plus en plus cher et de plus en plus rare. Donc je ne sais pas comment on va faire pour tenir ce pari. Et c'est vrai que les maires ruraux, on est vent debout contre cette loi. Et bon, elle est pas sortie encore. Enfin si, elle est sortie, mais elle est pas mise en rigueur, en place. Et donc on se bat. Alors on a obtenu 7 hectares. Il y a des discussions dans les ministères, mais on ne sait pas trop où on va, quoi, par rapport à ça.
Ça veut dire que, pour être clair, certaines communes qui veulent, il y a un nouveau maire qui arrive et qui veut faire un peu développer sa commune, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas assez de terrain.
Il y a ça d'une part, mais ce qui est encore plus grave pour les communes rurales, on a beaucoup de gens qui ont acheté, qui ont des terrains d'abord par transmission, c'est-à-dire que les parents ont acheté des terrains, où ces gens-là en achètent, en se disant « je fais un placement pour ma retraite ». Et ça me permettra de faire une maison dessus, ça me permettra de vendre le terrain. Donc c'était en définitive un placement qu'il faisait, mais en supprimant 50%. D'abord, il faut faire le choix de où on enlève ces 50%. Et derrière ça, il y a des gens qui vont perdre les revenus qu'ils considéraient touchés à leur retraite. Et ça, je trouve ça inadmissible et même scandaleux. Quoi.
Alors tu parles là de terrains agricoles qui étaient... qui avait la possibilité d'être constructible.
Alors c'est celle qui était dans la carte communale, que toutes les communes ont maintenant, ou pratiquement toutes, et où on avait mis des zones constructibles. Donc ces zones constructibles, elles vont devenir non constructibles. Et c'est pour ça que quelqu'un qui pouvait espérer vendre un terrain à, sur la campagne entre 20 et 40 euros le mètre carré, mais il va avoir un terrain qui vaudra ce que vaut la terre agricole, c'est-à-dire 2000 euros l'hectare.
Et donc, comme c'est basé sur les PLUI, c'est-à-dire que si tu as 16 communes, il y a un plan intercommunal d'urbanisme.
Oui, le plan local d'urbanisme intercommunal.
Et donc ça veut dire que peut-être certaines communes vont pousser pour que les communes en aient un peu moins, pour eux en avoir peut-être un petit peu plus.
Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, ça veut dire l'EPCI, c'est en définitive soit la communauté de communes, soit la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, elle essaie de s'accaparer ce ZAN pour essayer de regrouper où ça les intéresse. Mais si vous avez une intercommunalité qui fonctionne bien, c'est-à-dire avec des communes qui sont à égalité, je vais dire... Mais si par contre vous avez une commune où la commune centre mange tout, et c'est le cas dans certaines communautés de communes de Dordogne, ça voudra dire que les communes pleureront et regarderont le maire de la ville centre avoir pratiquement tous les permis.
Et donc, de fait, avoir un certain nombre de financements derrière qui auront pas ces communes. Mais on y reviendra tout à l'heure sur la question de la taxe d'habitation, parce qu'on en reparlera sur...
C'est un problème que la Dordogne vient de dévoiler. On est en train d'y travailler dessus, mais on va en parler tout à l'heure. C'est très important.
Donc, pour venir sur... c'est vrai que moi, j'ai entendu quelques communes qui posaient ces problèmes-là, parce qu'ils voulaient construire des logements sociaux... Et donc aujourd'hui, ils se trouvaient dans la possibilité parce qu'ils n'avaient pas la surface nécessaire pour faire des logements sociaux.
Alors, c'est exactement ce qui se passe. Je vais prendre un exemple parce qu'il l'a dévoilé. C'est la commune de Prigorieux qui aujourd'hui est en pleine expansion. C'est la banlieue de Bergerac qui se retrouve confrontée à des pénalités parce qu'il n'a pas assez de logements sociaux. Vous savez que quand vous n'avez pas le pourcentage de logements sociaux, vous êtes condamné à payer une indemnité à l'État. Lui, il est dans ce cas-là. Donc, pour éviter de payer cette indemnité, il souhaiterait faire des logements sociaux. Mais quand il dépose les permis de construire, étant donné qu'on rentre dans le plan du ZAN, eh bien, il ne les a pas. Ça veut dire que quelque part, il est bloqué. C'est la double peine, quoi. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, il va être obligé de payer son amende, oui. Et d'un autre côté aussi, on lui interdit de construire. Donc ça, c'est le paradoxe du ZAN. Ça, c'est vraiment un des paradoxes principaux, surtout pour ceux qui ont besoin de logements sociaux. Et la troisième peine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de logements sociaux parce qu'on est cruellement en manque de logements sociaux pour des gens qui sont en difficulté et qui en demandent. Et on se retrouve aujourd'hui dans le marché de la location, où ça favorise, comme je dis, les marchands de rêve, ce qu'on appelle les marchands de rêve, c'est-à-dire des propriétaires peu scrupuleux qui louent à des prix vraiment au-dessus du marché, des appartements qui sont souvent bien... qui sont souvent soit vétustes, soit obsolètes par rapport à la sécurité, par exemple l'électricité, avec des chauffages électriques en grille peint, où ils vont payer une facture d'électricité énorme. Donc quelque part, ça ne peut pas durer, quoi.
Effectivement, le logement, c'est un point fort pour les familles, puisque bon, ça représente jusqu'à 50% des revenus. Et aujourd'hui, créer une sorte de pénurie du logement fait que les logements deviennent de plus en plus chers et puis ça crée d'autres problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent aller à la campagne en espérant que ça sera beaucoup moins cher. Mais si on ne peut pas construire, si on ne peut pas faire de logements sociaux, on se demande où on va aller.
On ne pourra surtout pas construire à la campagne. C'est ça le problème. Et encore un autre paradoxe, c'est qu'on a fait un sondage. 83% des jeunes voudraient vivre à la campagne. Mais où ? Il n'y a plus de grottes, il n'y a plus de huttes, donc il faut des maisons. Je caricature, je préfère le prendre avec de l'humour, mais quelque part, c'est dramatique. Quoi. C'est dramatique, ça va encore plus loin même. C'est qu'aujourd'hui, avec les lois d'urbanisation, dans le temps, quand un paysan, un agriculteur avait par exemple 35 hectares de terrain, il est bien évident que si le fils reprenait la propriété, de suite, il a même permis de construire, pour construire où il voulait sur ses 35 hectares de propriété. Aujourd'hui, il n'a même pas la possibilité de construire sur les terres de son père. Il est obligé de s'expatrier sur des zones urbanisées parce que les siennes, celles de son père, ne le sont pas. C'est, là-dessus aussi, il y a quelque chose de malsain, quoi. C'est pas normal. Ça voudrait dire que le père, il devrait, lui, quitter son logement pour le laisser au fils, alors qu'il y a des fois des 4, 5, 6, 7, 7 décennies de familles qui ont vécu dans la même ferme.
Donc on va clore ce petit débat sur Lausanne. On va faire notre petite pause musicale et on se retrouve dans 2 minutes.
Donc voilà.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y'a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. on est les oubliés.
Après notre petite pause traditionnelle musicale, nous allons changer de sujet. Nous allons parler des effets de la taxe d'habitation pour les communes. Donc la taxe d'habitation a été supprimée en 2019, si mes souvenirs sont bons.
Par le président de la République.
Par le président de la République, parce que c'est toujours plus facile de supprimer les impôts des autres que les siens. Donc quelles sont les premières conséquences ?
Alors, les conséquences pour les communes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a été vraiment, comme l'avait dit le président de la République, compensé au centime près. Oui, mais ce qu'il y a derrière, c'est des effets collatéraux.
Attends, alors, compensé par rapport à 2019
Alors déjà, oui, compensé par rapport à 2019. Donc les communes qui avaient augmenté dans les années suivantes leur taxe d'habitation se sont retrouvées, avec cette augmentation qui leur tombait, se sont retrouvées à les rembourser. Parce qu'ils n'avaient pas, ils l'avaient augmenté. Donc la loi leur a dit, on se base sur l'année de la suppression de la taxe d'habitation. Ça veut dire qu'il y a des communes qui ont perdu pas mal d'argent. Dont moi, j'avais augmenté ma taxe d'habitation d'un point. Ça veut dire que quelque part, déjà au départ, sans rien toucher, j'ai perdu l'argent.
Et tu as perdu aussi par le fait que si tu as des constructions nouvelles, tu ne touchais pas cette taxe d'habitation.
Oui, mais ça...
Ça représentait beaucoup pour certaines communes.
Oui, ça représentait beaucoup pour certaines communes. Ça c'est, là, c'est par rapport à l'effet... C'est l'effet dans l'avenir. Mais bon, à partir du moment où elle a été supprimée, les gens ne vont pas s'en plaindre qu'on ait supprimé une taxe sur tous les locataires. Oui. Mais ce qui est encore plus grave, c'est ce que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, parce que peu de maires le savent, et on est en train en Dordogne de monter un dossier complet pour les sénateurs, parce que j'ai rencontré, moi en tant que président des maires ruraux, j'ai rencontré lors de la venue du président de la République, Bruno Le Maire, notre ministre du budget, et je lui ai parlé des effets de ruissellement de la taxe d'habitation. Alors, est-ce qu'il ment pas, je ne sais pas, mais il m'a dit qu'il n'était pas au courant et qu'il ne savait pas qu'il y aurait cet effet de ruissellement. Alors cet effet de ruissellement, il est très important. Pourquoi ? Parce que les communes aujourd'hui, il y a des communes qui sont, par rapport à la compensation, la compensation est faite par le produit du foncier bâti qui a été remis par le conseil départemental. Mais cette taxe foncière sur le bâti du conseil départemental avait une valeur. Et cette valeur, elle était soit surcompensée pour la commune ou soit sous-compensée. Et on vient de se rendre compte, alors c'est celui qui a alerté, c'est un maire de la Dordogne, un maire rural, il s'appelle Maurice Chabrol, c'est le maire du Bourdex, qui s'est rendu compte, lui, un bon gestionnaire de sa commune, et qui m'a appelé et qui m'a dit, mais il y a un problème là, par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en cherchant bien et en faisant des recherches dans toutes les autres communes, on s'est rendu compte qu'en Dordogne, 462 communes rurales, bien sûr, sont surcompensées pour 6 qui sont sous-compensées. Ça veut dire quelque part que les plus vertueux ont été sanctionnés par cette suppression de la taxe d'habitation par rapport à ceux qui ne sont pas vertueux. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont surcompensés, bien sûr, c'est ceux qui avaient une fiscalité, un taux d'imposition de la taxe d'habitation qui était bas. Et ceux qui sont surcompensés, c'est-à-dire les 6 qui restent, avaient une taxe d'habitation qui était très haute. Et pour pouvoir rattraper cette somme que touchaient les 6 communes ou de prendre à ceux qui avaient des communes surcompensées, cet argent a été remis dans un pot commun qui a été redistribué pour que tout le monde ait la compensation de sa taxe d'habitation au centime près. Ça, c'est une chose vraie. Mais quelque part, c'est quand même 462 communes qui ont perdu beaucoup d'argent, qui aurait dû leur revenir pour aller vers les communes qui sont, elles, non vertueuses et qui avaient une taxe d'habitation très élevée. Je vais vous prendre deux exemples. Moi, le mien, je suis maire de Rouffignac de Sigoulet, j'ai 330 habitants. Je suis surcompensé de 22 000 euros. Hein, donc exactement même, je peux vous donner la somme, c'est 23 053 euros. Et cet argent-là va dans le pot commun qui est remis dans la somme qui... Alors j'ai un exemple, la ville de Lyon. La ville de Lyon, qui bien sûr est sous-compensée, a reçu un virement de 4 millions d'euros. Ça veut dire que quelque part, comparativement, parce qu'il y a un député du Doubs, qui est une dame députée du Doubs qui avait remarqué ça, qui nous a alerté, à peu près, en gros, à quelque chose de près, l'État, sur les sommes surcompensées, a récupéré 5 milliards d'euros qu'elle a remis pour les communes sous-compensées. Donc vous imaginez la somme que ça fait. C'est quand on pense que notre Premier ministre veut faire 10 milliards
d'économies,
il y a déjà 5 milliards sur la taxe d'habitation. Alors voilà, c'est des choses qui sont inadmissibles. Puis ce qui est encore plus inadmissible, il faut que bien les maires le sachent, ça, et puis les administrer. C'est la première fois dans la Constitution, depuis la Révolution, qui, sur les impôts, que quand vous payez un impôt communal, au lieu d'être redistribué à la commune, il est redistribué à une commune voisine. Ça, c'est unique. Mmh. Et c'est pas normal. Quand vous êtes dans une commune, vous payez des impôts pour les services de votre commune, qui va servir au service public, à la voirie, à la cantine, toutes ces choses-là. Mais non, là, c'est dans ce ruissellement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc, c'est là-dessus on est en train d'y travailler. On va se réunir avec les deux sénateurs pour essayer de faire remonter ça au Sénat, parce que quelque part, il faut revoir cette composition, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a 19 conseils départementaux qui sont en grande difficulté financière. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus aucune fiscalité. Donc, quelque part, j'aurais préféré, moi, que cette surcompensation dans le département, parce que dans le département, elle représente plusieurs millions d'euros, j'aurais préféré que cette surcompensation aille au département, parce qu'on en a besoin du département, plutôt que d'aller dans les grandes métropoles. Encore une fois, c'est pas un effet direct de la nôtre, mais en définitive, on privilégie les métropoles par rapport aux communes rurales, sachant que 85% des communes en France sont rurales.
En sachant d'autant plus que la dotation globale de fonctionnement, elle est la moitié pour les communes rurales par rapport à une commune urbaine.
Mais bien sûr.
Ce qui fait que bon, l'écart va s'agrandir et faire que les communes risquent mettre la clé sous la porte, ce qu'elles ne peuvent pas faire puisqu'elles doivent avoir des budgets équilibrés, mais elles vont être obligées soit de fusionner, soit de
là,
faire des choses.
C'est là qu'est le grand danger. Le grand danger, Gérard, c'est que on arrive en 2026, pour la première fois, je pense qu'on va voir quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que beaucoup de maires, on a plus de la moitié des maires aujourd'hui par rapport aux années précédentes qui ont démissionné. J'entends parler partout qu'il y a des maires qui nous disent « Bon, c'est fini, on ne se représente plus, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, statut de l'élu, il n'est pas suffisant, les dotations dans les communes ont diminué avec comme peau de chagrin, pour les aides, ça ne suffit pas, c'est toujours 20-25%, alors qu'à une époque, ça pourrait être jusqu'à 40-45%. Donc, quelque part, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là que j'alerte, moi, les administrés et les maires en place, c'est que si un maire ne se représente pas et qu'il n'y a pas de candidat, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la commune, elle est jumelée avec la commune voisine où il y a un maire avec un conseil municipal. C'est la loi. Donc ça, il faut éviter ça, parce que l'État, il attend que ça. Il attend que ça. Ils ont essayé par tous les moyens, par les lois Marcellin, par toutes ces lois-là, de supprimer des communes. Mais là, ça va venir tout seul. S'il n'y a pas de candidat, ça va venir tout seul.
Donc le combat sur le ruissellement de la taxe d'habitation, c'est un combat pour le maintien des communes.
Ben forcément. Forcément, c'est pour un maintien des communes et des départements. Parce que je vous rappelle qu'au dernier congrès, à la dernière assemblée générale de l'AMRF qui s'est passée en Côte d'Or au mois de mars, le 23 mars, on a signé une motion pour défendre les départements. Parce que c'est toujours pareil, ces effets sont très néfastes pour tout le monde. Le département aujourd'hui, quand vous faites un projet dans une commune, vous avez plusieurs sortes d'aides. Vous avez bien sûr la dotation des équipements des territoires ruraux qui sont donnés par l'État, mais vous avez aussi souvent une aide du département. Et pour finir, des fois, un fonds de concours de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo, et parfois aussi des aides européennes. Si vous supprimez l'aide du département, qui souvent est aux alentours des 20-25%. Mais le projet de la commune, il tombe, parce qu'ils n'auront pas la somme suffisante sur les fonds propres pour faire ce projet. Donc quelque part, c'est très très dangereux pour l'aménagement du territoire. On nous parle d'aménagement du territoire. Moi, je dis qu'on est en train de déménager les territoires.
D'autant plus que derrière, le département, sa première fonction, c'est l'action sociale et sanitaire. Et s'il n'y a pas l'argent pour aider à cette action sociale et sanitaire, on va se trouver dans des situations très, très difficiles.
Mais c'est là-dessus que l'État joue, le département a des compétences obligatoires qui sont les collèges et puis le social. Forcément, il reste toujours un peu d'argent pour d'autres compétences optionnelles. Les communautés de communes et d'agglos ont aussi des compétences optionnelles. Mais ces compétences optionnelles, si on ne peut pas en avoir un minimum une à deux, c'est pas la peine d'exister, quoi. C'est de l'administration, c'est de l'administratif. Oui. Donc, quelque part, il faut défendre les départements. Il faut absolument défendre les départements. Moi, je préfère garder un département qu'une région, parce que la région, elle est tellement loin. Quand on demande des aides, d'abord, ça passe par l'Europe. C'est un tas de complications pour avoir des aides européennes. Enfin, on les a, on les obtient, mais c'est très, très compliqué. Que le département, il suffit de mettre le projet sur la table, de demander de la DETR, de demander de la DSIL, de demander une aide au département, de demander une aide à la communauté de communes. Ce sont trois organismes qui sont de proximité. Et c'est pour ça qu'il faut garder absolument le département. Alors bien sûr, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe dans les départements ou dans notre département. Mais moi, je dis que la nécessité, quel que soit celui qui dirige le département, parce que s'il y en a 19 en difficulté, qu'on ne me raconte pas d'histoire, il n'y a pas dedans que des mauvais et que des bons, des mauvais présidents de conseils départementaux. Bien sûr, il y en a qui ont leur personnalité, mais moi, je dis que le département, quel que soit le président, il faut défendre le principe du département et les compétences du département. C'est absolument nécessaire.
Donc, je te remercie sur cette question-là. Tu voulais faire un petit point particulier par rapport à la ligne de train Périgueux-Agen, c'est ça ?
C'est Périgueux-Agen, oui, c'est très important. Nous avions une manifestation, c'est la deuxième manifestation. La première s'était passée à Mont-Saint-Pron-Libos, où nous avions 80 maires qui s'étaient rassemblés sur la ligne pour défendre cette ligne, parce qu'elle est très, très menacée. Et alors, bien sûr, il y a des communes de la Dordogne, il y a des communes de Lot-et-Garonne, dont nous sommes très unis avec mon collègue du Lot-et-Garonne, président des maires ruraux du Lot-et-Garonne, Gilbert Guérin. On est main dans la main, et à la dernière manifestation qu'il y a eu la semaine dernière, il a été proposé que les maires du Lot-et-Garonne ont proposé pour alerter et pour dire « ça suffit », ils ont proposé que pour les élections européennes, les maires ruraux ferment leur bureau de vote pendant une à deux heures pendant le dimanche du vote. Moi, j'y souscris totalement si tout le monde le fait. Je vais lancer une pétition, faire une consultation des maires au niveau de la Dordogne. Si tout le monde y va, on y va. Si ma foi, les maires estiment que c'est pas légal ou c'est pas dans l'air du vent, on n'ira pas. Mais je pense qu'il faut quand même, l'important, c'est qu'il faut sauver cette ligne, parce qu'on a beaucoup d'écoles qui ferment, on a beaucoup d'entreprises qui ferment, on a beaucoup de gens qui disparaissent de certaines zones rurales. Si en plus on ferme les trains, c'est pas fait pour arranger les choses. Donc quelque part sur l'aménagement du territoire, le train a toute sa place. Toute sa place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler en train. Le plus bel exemple que je peux donner, c'est la ligne Bordeaux-Sarlat. Les élus ont combattu pour que cette ligne soit refaite. À l'époque, on nous disait « mais cette ligne n'est pas rentable, il n'y aura personne ». Bon, cette ligne, on l'a sauvée grâce surtout aux collectivités, parce que c'est même pas là. Voilà encore un exemple où les collectivités, c'est pas dans leurs compétences obligatoires. C'est l'État, la région et l'Europe. Donc, quelque part, nous, on n'avait pas à y mettre un centime. Or, on a dit, il faut sauver cette ligne. Donc, on y a mis, les intercommunalités y ont mis de l'argent tout le long de la ligne Bergerac-Sarlat. Aujourd'hui, résultat, plus d'un million de passagers, ligne rentable. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vois entre Bergerac et la Mauzy-Saint-Martin, nous avons un transport ferroviaire pour le transport des scolaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, de voir des gamins qui, le matin, au lieu de prendre un bus, prennent un train pour aller de la gare jusqu'à l'école. Moi, je trouve que c'est un véritable exemple. Et il faut absolument sauver cette ligne Périgueux-Agen, parce que aussi il y a énormément de gens qui l'empruntent. Et en sauvant cette ligne, ça aidera aussi à revitaliser les communes où ce train s'arrête.
Je te remercie, Alain, et je souhaite bonne fin de journée à nos auditeurs. Et puis on se retrouve le mois prochain.
J'espère pas tout seul.